Comment les choses sont classées dans votre discothèque?
Alors tous les Français au début, enfin là c'est au tout début, il y a tous les albums de l'enfance. Alors il y a les albums que j'avais quand j'étais petit. Alors il y a la marque jaune.
Et c'est extraordinaire.
Jacobs.
Pierre et le Loup, grand classique. C'est l'édition d'origine ça?
Oui. Ça, c'est le premier disque qui m'a marqué chez mes parents. C'est des valses de Strauss. C'est la pochette que je trouvais incroyable. Regardez, elle est... Vous voyez ? Elle est vernie, elle est en...
Magnifique, ouais, ouais, ouais.
C'est la pochette qui m'a fasciné. Puis après, du coup, je demandais qu'on mette ce disque. J'ai dû finir par l'aimer.
Le Petit Prince.
Le Petit Prince, donc, on voit marqué au dos, je crois. Cadeau de maman, j'avais marqué ça.
C'est tellement joli. Une petite étiquette collée sur le disque.
Voilà, donc ça c'est les disques d'enfants. Et après il y a un disque de Dali qui est assez rare, hein, qui est incroyable. C'est un disque de Dali qui parle et qui.
Et ça s'appelle Je suis fou de Dali. Ouais.
Après il y a tous les Français. Après les disques français, il y a toute la pop, le rock, la musique électronique. Et puis après, toute la soul en bas. Donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de disques de soul.
Pas tellement de classiques.
Non, assez peu. Il y en a un petit peu en haut. Mais c'est vrai que le classique, ce n'était pas trop ma culture. Je n'ai pas eu cette culture de ça. Alors peut-être que c'est un bémol. Alors bon, je connais peu la musique classique, mais il y a des disques que j'ai écoutés en boucle. Par exemple, les valses de Chopin. Enfin, c'est quelque chose de très, très connu. C'est un peu comme Au clair de la lune. Mais c'est un album qui me fait un effet incroyable. Vraiment, Forêt aussi, Satie, c'est vraiment, c'est des musiques pour moi, quoi. Après, je connais mal, vraiment. Peut-être une musique sur laquelle il faut que je me penche maintenant, parce que j'ai découvert beaucoup, beaucoup de choses, et peut-être que la musique classique va m'apporter autre chose.
Il y a vraiment un mystère d'Ao, c'est un peu exprès, enfin, évidemment que c'est exprès, mais il y a un mystère. J'aime bien ça en plus, de pas savoir vraiment. Il fait tout pour, il efface les traces, comme des sorcières un peu, avec la balle brosse. Et c'est ce mystère qui est intriguant comme tout. Je ne sais pas qui le connaît, si tu dois avoir interviewé sans doute les personnes qui le connaissent vraiment, vraiment, bien, bien, bien. Mais pour moi, il demeure quand même mystérieux.
Les médias francophones publics vous proposent...
Globalement, ça va. Enfin, je veux dire, je ne suis pas de...
Dao, fan de pop.
Je suis assez...
Une émission de Jean-Luc Lehmann et Mathieu Ramsauer.
Spontané, je crois. Je dis pas mal de choses. Donc voilà. Et puis, bon, il y a des choses qu'on lâche parfois. C'est pour ça que j'aime bien la radio. Et en fait, j'aime bien les choses en live et j'aime bien la radio. Parce que même si on peut remonter en radio, quand on dit des choses, il y a le ton. Et avec le ton, on a le vrai sens des choses.
Dao, fan de pop, 9e et ultime épisode.
Aujourd'hui, la musique dans la tête.
Dao, c'est 11 albums studio et presque autant de tournées. Satori Tour, Tour Martien, Tour de Paris et d'ailleurs, Tour de l'été sans fin, Révolution Tour, Obsession Tour, Disco Noir Tour, Blitz Tour. Des tournées sold out. Contre nature de monter sur scène pour le loup solitaire. Après un détour par le live, exploration de Blitz. Mais au fait, qu'en a pensé Françoise Hardy de cet album Coup de fouet ? Dans ce dernier épisode, vous apprendrez aussi ce que Dao aurait fait s'il n'était pas devenu chanteur. Il nous donnera aussi la recette de l'écriture de ses chansons.
Merci.
Quand on est sur scène, qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on capte quand le public est là et vous aime, quoi ?
Alors c'est un moment d'hypnose collective quelque part, hein. C'est vraiment l'énergie qui circule. Moi j'envoie des choses qu'on me renvoie et ça fait comme une espèce de cercle comme ça qui se construit au fur et à mesure du show. On arrive avec la première chanson, il y a l'attente du public, mais il y a la nervosité d'être à la hauteur de ce qu'on attend. De mon côté, Et du côté des musiciens aussi, et puis l'excitation de la rencontre. Chaque soir, même si c'est sensiblement le même show, c'est pas la même salle, c'est pas la même énergie, c'est pas la même vie, il se passe pas les mêmes choses. Et donc ce sont des choses différentes à l'intérieur de quelque chose qui est la même chose.
Lors d'une tournée, il y a des moments vraiment tout à fait exceptionnels, uniques.
Il y a des concerts, mais bon, c'est comme il y a des rencontres qui sont plus magiques que d'autres. Je trouve que mes tournées sont de plus en plus agréables à faire pour moi. J'aime de plus en plus les concerts. C'est de plus en plus satisfaisant. Je m'amuse de plus en plus. Même si tous les concerts, depuis les débuts, ont toujours été assez festifs, c'est de mieux en mieux. Voilà. Je suis vraiment heureux, et je crois que ça se communique, et je crois que le public aussi me comprend mieux, même mieux pour les meilleures raisons. Et donc, c'est plus confortable d'être compris et aimé pour les bonnes raisons plutôt que pour un tube du moment.
De faux messages, j'ai rendez-vous dans l'air, inattendu et clair déjà, je pars à ta découverte, ville bonne et offerte, c'est l'attrait du danger qui me mène à ce lieu, c'est l'instinct, tu me cherches et approche, je sens que c'est... Se ferme tes prunelles marines, sous quel méridien se caresser, dans mes bras te cacher, dans ces ruelles fantômes, ou sur cette terrasse où s'écrase un soleil, tu m'enseignes le langage des yeux, je reste sans. Cherche l'ombre, comment ris-tu avec les autres? Parfois aussi, je m'abandonne, mais au matin, les dauphins se meurent de saoudade. Oh, 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 oh. Saoudade. Ce tourbillon, cette valse d'avion, aller au bout de toi et de moi, vaincre la peur du vide, les ruptures d'équilibre, si tes larmes se mêlent aux pluies de novembre, et que je dois en périr, chambrer avec un...
Moi j'étais en nage, complètement trempée.
J'ai cru que j'y arriverais pas quoi. Genre ah, là, une gorge hyper sèche.
Il y avait
tu sais.
Fabrice à côté de moi.
Quelle heure est-il là?
Il est 11h30, ça fait 2h.
Bon, je vais me changer. Retour à la vie réelle et normale. C'est un moment de telle exaltation que c'est difficile de redescendre. On se prend une dose d'énergie, d'amour. C'est phénoménal, quoi. C'est difficile de l'expliquer. Et donc après, on est complètement plein et complètement galvanisé de cette chose-là. Et c'est très difficile de descendre. Donc j'essaie de descendre le plus vite possible.
Mais tout seul?
Tout seul, ouais, bien sûr. Mon système, c'est de vraiment de rentrer, de m'isoler et d'appeler la personne que j'aime, de passer une demi-heure au téléphone. Enfin, voilà, des choses comme ça.
2017, Blitz.
Oui, Blitz. Encore un disque qui a été un monumental affaire, un travail de titan, ça s'entend. Je suis encore dans l'émotion de ce disque parce qu'en fait, il est tellement récent. Je viens de le terminer et c'est comme un enfant encore qu'on regarde faire ses premiers pas. Donc, tant qu'il n'a pas vécu sur scène, il reste encore sa petite chose, quoi. Il n'y a pas encore eu le moment de la séparation avec le disque. C'est un album que j'ai écrit et produit avec Fabien Waltman, qui est un garçon avec lequel j'avais travaillé sur l'album Eden. Et les retrouvailles ont été magiques, parce que j'habitais à Londres pour travailler. J'étais parti pour écrire à nouveau. Et je suis allé le voir en me disant, bon, ben voilà, on va voir où on en est. Encore un truc d'intuition. Et là, c'est parti au quart de tour. On a écrit la première chanson qui s'appelait Vaudou. Et Vaudou, c'était vraiment tout à fait le contexte sonore, sonique de cet album. Et on est parti, on a écrit plein de chansons. Et c'était très fort d'être envahi par un disque comme ça.
Étienne avait envie de justement peut-être casser le côté très pop du précédent album.
Pierre-Alexandre Vertadier, manager d'Étienne Daho.
En proposant quelque chose de vraiment différent. Et je pense que toutes ces références psychédéliques, poids des guitares, est quelque chose qui était ce qu'il avait envie de faire.
Un format de chanson un peu étiré, avec des jeux sur les sons, sur les structures.
Jean-Éric Perrin.
Sur la patte musicale.
Journaliste et écrivain.
Plus qu'un côté très pop, 3 minutes, couplet, refrain, on va quelque chose de plus sucré, quoi, plus bubblegum. Donc là, on le retrouve, ce côté progressif, au sens tête chercheuse, au sens avant-garde, d'aller chercher des sons comme ça, d'étirer les sons, de les malaxer, de les triturer dans tous les sens, quitte à ce qu'ils soient même désagréables à l'oreille. Et puis bon, il y a toujours évidemment ce sens esthétique qui est proche du discours esthétique d'Andy Warhol, quoi. Cette propre mise en scène de soi-même et cette réflexion qu'il y a autour d'une image qu'on donne, qui n'est pas juste un bonus. L'image est aussi importante que la musique. Et donc, quand je parle d'image, là, ça va de la pochette de disque aux photos de presse, aux vidéoclips. Tout ça forme un tout qui fait partie de la musique en soi, quoi.
Tous les journalistes qui l'ont interrogé pendant la promotion de l'album.
Tristan Béra.
Ils ont parlé de la pochette. Et,
commissaire d'exposition.
Bah, je peux juste dire que c'est un mélange de Kenneth Anger, de l'enfer de Clouseau avec le ray de lumière verte sur le visage, de Marlon Brando dans L'équipée sauvage. Il a été inspiré par Lou Doyon pour la casquette qui porte un peu de travers, la casquette de cuir. Il y a un truc... SM, évident, il y a un truc qui fait penser à Scorpio Rising. Moi, je trouve qu'elle va bien avec le titre de l'album.
Il y a toujours des événements qui se produisent pour accompagner un disque et pour accompagner la créativité et l'inspiration. C'était mes retrouvailles, entre guillemets, avec Syd Barrett. J'ai rencontré Dougie Fields, qui habitait à quelques mètres de l'appartement que je louais à Londres. Et c'est l'appartement qu'il partageait avec Syd Barrett, qu'on voit sur le premier album de Syd Barrett, qui s'appelle The Madcap Loves, après ça... séparation d'avec Pink Floyd, enfin sa séparation, son éviction de Pink Floyd, et le fait de se retrouver dans la chambre de Syd, vraiment ça a été un moment très fort. Je me suis senti en connexion avec lui très très bizarrement. Il y a eu un moment comme ça de presque mystique véritablement. J'ai été envahi par lui. Il est devenu un peu le héros de ce disque d'une certaine manière. Et aussi, c'est une manière de me reconnecter à mon enfance, parce que c'est le premier album que j'ai acheté, c'est le premier album de Pink Floyd. Donc avec toutes les chansons de Barrett, je suis devenu un grand à l'âge de 12 ans avec cet album-là. Et ça m'a sculpté les oreilles.
Dans la chambre à couteau tiré, apprendre. à danser sans tomber. La corde est tendue sous nos pieds, battant l'air dans le vent d'été. Dans la chambre à couteau tiré, apprendre à danser sans tomber. La corde est tendue sous nos pieds, claquant l'air dans le vent de l'été.
J'ai participé là au dernier album, Blitz.
François Poggio, guitariste.
Et c'était assez dingue. Assez dingue parce que, avant même de faire une note de musique, moi je savais pas dans quelle direction il allait. Et il m'a baladé dans plein de quartiers incroyables. Enfin, il m'a d'abord mis dans une atmosphère, dans une ambiance. Il avait déjà en tête, je sais pas, par exemple, ça peut être Syd Barrett, qu'il avait vraiment, c'est une de ses références. Donc on est allé dans le quartier devant son appartement, on est allé à Soho, il a fallu que je m'imprègne, et c'était génial parce que je suis vraiment demandeur. C'était pas du tout, j'arrive en studio, je fais 2-3 notes de musique, et puis on se voit le lendemain, pas du tout. C'était vraiment s'imprégner d'abord, c'était une sorte de se mettre dans une atmosphère bien spéciale qu'il avait lui-même pensé, évidemment, pour cet album. Et ensuite, on attaquait le studio.
Je sais que la rencontre avec Unloved,
Pierre-Alexandre Vertadier,
a été quelque chose de déterminant.
Manager d'Étienne Daho.
Je crois qu'à travers leur musique et cette rencontre, il a eu une vision artistique de ce qu'il voulait faire.
Je voulais aller voir parce que j'avais adoré leur album, vraiment. Je savais qu'ils faisaient un DJ set à l'autre bout de Londres, dans un magasin qui s'appelle Rough Trade. Et donc j'ai traversé Londres avec la plus grande difficulté, parce qu'il n'y avait pas de taxi, les métros ne marchaient pas, etc. Je suis arrivé après le DJ set. Donc je ne pouvais pas les rencontrer. En plus, il y avait beaucoup, j'avais 300 personnes devant le magasin. Donc c'était cuit, quoi. Je me suis dit, bon ben voilà, je suis venu jusque-là, j'ai essayé. Puis il y avait plein de Français qui commençaient à me prendre en photo, tout ça. Donc je me suis dit, bon, je m'en vais. Et au moment où je m'en vais, je me retourne et je télescope un mec. C'était David Holmes de Unloved. C'était improbable, mais véritablement improbable. Et là, on a commencé à parler, on a échangé nos mails. Je me suis dit, bon, voilà, il a dû me prendre pour un fan un peu énervé. Et puis, finalement, ils m'ont rejoint et on a travaillé ensemble et on est devenus très amis. Avec les membres du groupe Jade Vincent, qui est une artiste incroyable, et Kiffeuse Ciencia, qui est le clavier aussi du groupe, qu'on connaît pour avoir écrit, entre autres, la BO de True Detective. Donc ce sont des choses comme ça, des élans. C'est pas supposé se faire, mais le destin fait que les choses se produisent, se matérialisent.
On a l'impression qu'on retrouve l'Étienne Daho de Rennes.
Oui, dans la même les Toys viennent à Rennes, mais il y a une tempête de neige et ils restent là. Ils auraient pu repartir à Paris et j'aurais plus jamais entendu parler d'eux. Et là, ils sont restés, on a fait connaissance. On est devenus amis pour l'éternité ce soir-là. L'accueil de ce disque, c'est exceptionnel. C'est rarissime quand on a 40 ans de carrière de surprendre. Et là, j'ai l'impression que les gens, même les gens qui me connaissent bien, ont été surpris par ce disque, étonnés par ce disque. Donc c'est une joie pour moi de m'être renouvelé, de ne pas être dans mes pompes. Ça m'intéresse pas. Je ne pourrais pas faire de disques qui se ressemblent.
J'ai eu le sentiment, peut-être je me suis trompé, mais qu'il n'y a jamais vu une presse aussi importante autour d'un disque.
Ah, mais je n'ai jamais vu ça, je n'ai jamais connu ça. Même à des périodes où vraiment j'étais encensé partout et où j'étais archi présent, j'ai dû faire 9 ou 10 couvertures de magazines. Et vraiment, l'accueil a été incroyable. Vraiment, l'accueil public et l'accueil médiatique, ce qui est rare en fait, d'avoir les deux. Et puis j'ai eu aussi l'aval de... Il y a quelques personnes qui comptent beaucoup pour moi et c'est important que ces personnes apprécient mon travail. Et j'ai eu un mail de Françoise Hardy qui est pas souvent très tendre avec ce que je fais ou avec mes pochettes et tout ça. Et là vraiment, elle m'a envoyé un mail qui m'a vraiment tellement fait plaisir. Ça compte tellement pour moi, son... Navi.
Oh là 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 là, moi j'ai été sidérée, je me suis dit heureusement que j'ai commencé à enregistrer mon propre disque avant, parce que ça m'aurait totalement découragée d'en faire un, parce que moi je reste quand même dans une certaine tradition, dans un certain classicisme, et c'est aujourd'hui avec tout ce qui se passe, tout ce qu'on entend, des nouveaux artistes, il en surgit, enfin ça pousse comme des champignons, qui font des choses tout à fait... inhabituelle, très dérangeante même par moments. Là, j'ai trouvé que Étienne, il était à la jonction de ça et qu'il avait réussi un album extrêmement actuel, d'une qualité incroyable sur le plan de ce qui se passe derrière sa voix, le plan de la voix aussi, hein, sur tous les plans.
Cérémonie d'une nouvelle aube
si double fracture. Tu pleures entre mes bras. L'or et l'air pur laisse couler ses larmes de joie. Qui nous emporte, les esprits nous escortent et de nous les cordages de la nuit.
Quand le petit Étienne arrive à Rennes avec ses deux sœurs, sa mère est débordée. Abandonnée pendant la guerre d'Algérie par son mari, elle n'a pas suffisamment de temps pour ses trois enfants. Dao Junior se trouve une autre famille, la famille Éluard. Il deviendra comme leur sixième enfant.
En sixième, je crois que c'était à la fin de la sixième, j'ai passé un concours de poésie ou un truc comme ça. Et dans ce concours de poésie, il y avait une fille que je trouvais d'une beauté à tomber à la renverse, qui s'appelait Elisabeth. Et c'était irrésistible, je me suis approché d'elle et je lui ai parlé. Sa maman est venue la chercher après. Et puis, je sais pas pourquoi, sa maman m'a parlé et tout ça. Et ils m'ont invité à venir passer le dimanche boire le thé. Et je suis plus jamais ressorti de chez eux.
Sa maman qui subvenait à tous ses besoins et à tout son amour, etc.
Jean-Christophe Éluard
n'était pas là, n'était pas souvent chez lui. Donc il allait chercher la vie, entre guillemets, ailleurs.
De l'âge donc de 11 ans...
Cricket Éluard.
Jusqu'à maintenant, il n'a jamais quitté notre vie.
Alors, quelle impression il vous a fait au tout départ? Est-ce qu'il était un petit peu à part, comme certains le disent?
Oui, il était à part. Il avait déjà son petit côté british, je trouvais. Il était très mignon, très charmant, bien arrangé. On sentait qu'il avait le souci de son allure. Il était plein de vie, rieur. Et c'est vrai que il sortait du lot et donc il était obligatoirement séduisant.
Un petit garçon tellement bien élevé, tellement bien poli, tellement attentionné que ça a été un coup de cœur pour nous immédiat. Il a été adopté par toute la famille Éluard sans exception dès le départ. Moi j'avais 7 ans quand j'ai rencontré Étienne, il en avait 11. Et moi j'ai vu déjà un grand frère pour moi, voilà. Quelqu'un qui serait tout le temps dans ma vie.
Et je crois que nous, les enfants Éluard, à cette époque-là, nous nous démarquions un petit peu des autres aussi. On a eu ce qu'on appelle un atome crochu, on s'est tout de suite dirigé les uns vers les autres.
Le père était prof d'allemand, monsieur Éluard, et malheureusement, il était dans la même école que moi, et c'est un moment où j'ai commencé à avoir un petit peu des soucis avec l'autorité, et à moins bien travailler, et avoir une scolarité un petit peu compliquée. Donc je me faisais beaucoup, beaucoup engueuler par lui.
Mon père rencontrait régulièrement ses professeurs et demandait des nouvelles de son travail. Bon, très souvent, il était dissipé, ça n'allait pas... Donc là, on le prévenait gentiment, on lui disait qu'il fallait mieux qu'il ne vienne pas à la maison pendant quelques jours, parce qu'il allait se ramasser une engueulade. Là, il était terrorisé pendant une quinzaine de jours, on ne le voyait plus, enfin, ou on le voyait en dehors de la maison. Mon père nous disait, ce petit con-là n'a rien foutu du trimestre. Je suis furieux après lui. Donc, mon père jouait quand même le rôle du père. C'est une évidence, quoi.
Ça a été vraiment une famille très importante pour moi. J'ai beaucoup appris avec eux. On était vraiment comme des frères et sœurs et on était très très liés.
Il aimait beaucoup mon père. Comme mon père était très sévère, il avait la même anxiété de mon père que celle que nous avions.
C'était vraiment le sixième enfant Éluard, on peut dire.
Ben oui, d'ailleurs mon père lui a écrit. Les dernières années de la vie de mon père, Étienne a entretenu une jolie correspondance avec lui. À chaque fois qu'il s'est passé des événements importants dans la vie d'Étienne, mon père lui a écrit. C'était un homme qui écrivait merveilleusement bien. Et mon père lui a écrit de jolies lettres que je crois qu'Étienne garde un peu comme un trésor avec lui. Et le dernier Noël, avant que mes parents ne décèdent, j'étais très émue parce qu'il est venu avec... il savait que mes parents étaient très gourmands, il est venu avec plein de gâteaux. Et puis... il les a solennellement remerciés. C'était étrange parce que bon, mes parents sont morts quelques mois après. Mais il les a solennellement remerciés de tout ce qu'ils avaient fait pour lui. Et il leur a dit que il savait que grâce à eux, il était là et que peut-être il aurait pu terminer au fond d'une cave aussi.
Qu'est-ce qui a changé chez lui avec le succès ?
Alors, vis-à-vis de notre famille, rien du tout. Pour nous, c'est toujours le même. Je pense qu'on est un îlot dans sa vie qu'il sécurise. Ça n'a rien changé de nos relations. On rit toujours des mêmes choses et des mêmes bêtises. On ne se voit pas aussi souvent qu'avant, bien sûr, mais on est toujours en contact téléphonique. On s'envoie des petits mots d'affection très régulièrement. Ça n'a rien changé. En tout cas, dans notre relation à nous, à notre famille, ça n'a strictement rien changé. Il m'a coupé les cheveux pendant plusieurs années, mais vraiment à merveille. Il m'avait coupé les cheveux pour le jour de mon mariage. Quand il est parti à Paris pour son premier disque, je me suis dit, zut, où est-ce que je vais me faire couper les cheveux maintenant? Et sans doute celui qui m'a fait les plus belles coupes de cheveux de ma vie. Ouais, non, vraiment.
Comparé à des coiffeurs professionnels.
Ah oui, vraiment, vraiment. Il était très doué. Mais il avait un sens artistique en tout. Hein. Et quand j'étais enfant, enfin jeune, adolescente, il adorait me faire des coiffures un petit peu ridicules. Il me crêpait les cheveux. Il me faisait des espèces de chignons très hauts, très crêpés. Et en fait, il adorait me transformer. Et ça le faisait énormément rire. En fait, il aimait bien jouer avec tout ça, avec le physique déguisé, habillé. Il mettait, je me souviens, des boas autour du cou avec des coiffures très hautes et tout ça. Très, très ridicule. Et là, on avait des fous rires extraordinaires, mais on s'est beaucoup déguisé, beaucoup grimé. Mon petit Étienne, je t'aime du plus profond de mon cœur jusqu'à la dernière minute de ma vie, je t'aimerai.
Avant que l'infidélité à la beauté assassine, ne me mord la main, ne me couronne d'épines. Avant que l'infidèle à la beauté assassine, ne me mord la main, ne me couronne d'épines. Désadoré, l'adoré. Avant que ces baisers ne deviennent couteaux, que ces bouquets de fleurs ne me fassent la peau, désadorer, l'adorer, m'élaborer ce chagrin si haut que je porte beau comme un drapeau, vainqueur dont on admire le sort, courageux qui sait aimer trop fort. Car comme les dieux qu'on adore adorer, j'adorais l'adorer.
Avant que l'infidèle à la beauté assassine, ne me morde la main, ne me couronne d'épines. Désadoré, adoré. Avant que ces baisers ne deviennent couteaux, que ces bouquets de fleurs ne me fassent la peau, les adorer, ce chagrin si haut que je porte, beau comme un drapeau, en vainqueur dont on admire le sort, courageux qui s'aimait trop fort, car comme est Dieu qu'on adore adorer. J'adorais l'adorer, j'ai été si vivant chaque minute, chaque seconde, mais avant d'abhorrer ces humeurs vagabondes, des adoré. Avant que l'infidèle à nouveau ne sévisse, qu'inéluctablement le destin s'accomplisse, des adorés, adorés. Mais à chagrin si haut que je porte, beau comme un drapeau, en vainqueur dont on admire le sort, courageux qui s'aimait trop fort, car comme est Dieu qu'on adore adorer. Des adorés, adorés, des adorés, adorés, des adorés.
Étienne Birkin, vous avez eu l'occasion de faire des duos avec Étienne Dao. Comment est-il dans le travail ?
Un très très grand perfectionniste. Il veut contrôler tout. De son image aussi, hein. Je pense qu'il n'y a aucune image de lui qu'il laisse passer par erreur. Et on est dans les bonnes mains quelque part, parce qu'il veille pour vous aussi. Il vous donne le bon rôle, il fait attention, il... Mais il est très, très, très discipliné sur son image, sur son... les photos de lui. Une insécurité, sans doute, qui le rend encore plus fragile et plus séduisant, je trouve.
Je lui retrouve les mêmes traits de caractère que dans son enfance.
Cricket Éluard, ami d'enfance d'Étienne Dao.
Il est toujours dans les mêmes inquiétudes... C'est un garçon qui avait peur de l'échec. C'est un garçon qui avait peur de tout ce qui était déchéance. C'était un garçon qui avait peur de tomber, en fait. C'est un garçon qui avait peur de tomber.
D'abord, c'est quelqu'un qui est très exigeant avec lui-même.
Nathalie Noënec.
Travaille énormément. Enfin,
conseillère en images.
On pourrait même dire que c'est une œuvre-vie ou une vie qui est consacrée à faire une œuvre. Sa vie est complètement engloutie par son travail. Et dans le rapport professionnel, c'est quelqu'un d'extrêmement déterminé, qui ne lâche rien, et c'est dans la plus grande douceur. C'est-à-dire qu'il est absolument exquis dans le rapport humain.
Il laisse la place à la proposition.
Flavien Berger, musicien.
À l'expérimentation, à l'improvisation. Mais cette place est cadrée, ce qui permet que le reste soit aussi fait comme il l'entend et comme il l'a écrit. Et ce qui est, je trouve, une force. Et on comprend pourquoi des artistes font leur art au bout d'un moment lorsqu'on les voit travailler et qu'ils pourraient pas faire autre chose, quoi. Et c'est ce à quoi j'ai assisté, alors en tout cas de lui en tant que musicien, c'est que tout s'aligne et tout prend du sens, quoi.
Pour moi, c'est un parcours sans faute.
Thierry Suc, tourneur et producteur de spectacles.
Et j'ai aimé tous ses choix, qui sont parfois très différents artistiquement, au niveau des collaborations musicales qu'il peut faire, mais ça a toujours du sens. Je ne sais même pas si lui, d'ailleurs, a décidé d'avoir une ligne. Je crois que chaque fois, il y a une remise en question. Il reprend sa page blanche pour écrire ses textes et faire ses musiques. Et chaque fois, c'est des choix justes de collaboration musicale, visuelle. Donc, j'ai beaucoup de respect pour cela.
Quelles conditions doivent être réunies pour que vous soyez en phase, disons, de travail, d'écriture, de création ?
Alors, c'est d'un coup. Je pense qu'aussi la créativité, ça se planifie, bizarrement. Il ne faut pas penser que les choses arrivent. Alors, des fois, il y a des choses qui vous parviennent comme ça, magiquement, d'on ne sait où, et tout d'un coup, vous êtes hyper créatif et vous écrivez quelque chose qui vous plaît, qui est quelque chose de définitif. Ça m'est arrivé d'avoir des chansons comme ça, qui arrive très très rapidement, mais la plupart du temps, c'est du travail, c'est vraiment du... Malheureusement, c'est de la besogne un peu, parfois, et je pense que c'est une besogne qui doit être organisée. Donc je m'organise des moments de travail, des temps de travail, je m'oblige à écrire. Et de ces moments où je m'oblige à écrire, il y a des choses bien qui arrivent, et des choses que je jette aussi.
Quand il cherche une mélodie, je l'ai vu effectivement se baigner dans la mer.
Sandra Gaudin, amie d'Étienne Dao.
Et tout d'un coup, il a la suite de la mélodie qui arrive, donc il sort de l'eau, il va enregistrer, et puis il revient. Ça lui arrive comme ça de fonctionner sur une mélodie toute la journée, en boucle, jusqu'à ce qu'il trouve la suite.
Donc il retourne, mais il chante la mélodie.
Il chante la mélodie, ouais. Il la chante à haute voix, et puis tout d'un coup, il trouve la suite. Donc il va la réenregistrer sur son téléphone.
Disons que je mets longtemps à faire très vite. Des musiques, j'en ai plein, tout le temps dans la tête, c'est fatigant même pour moi. Parce que là, je vous parle, donc ça s'arrête, mais que si je m'arrête de parler, j'ai plein de musiques dans la tête, tout le temps. Et ça, c'est depuis tout petit, hein, vraiment. J'entends tout, la batterie, la basse. Ça perturbe vraiment mon sommeil, souvent. Parce que je pourrais enregistrer un disque comme ça, il faudrait qu'on invente un truc, qu'on branche un truc dans ma tête, et ce serait fini le matin.
Quand en pleine nuit, il y a un truc vraiment fort, quand là, c'est vraiment puissant, vous faites quoi ?
J'enregistre sur un dictaphone.
Vous le chantez
Je le chante. Mais bleu comme toi, le grand sommeil, au commencement, il y a plein de chansons qui proviennent du rêve, qui sont venues dans mes rêves, et que j'ai enregistré comme ça, d'un bout à l'autre, avec la structure, tout. Tout était déjà là. Bon, j'adore quand c'est comme ça, il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus laborieuses, malheureusement.
Vous écrivez à la main ?
J'écris à la main. Et après, j'ai besoin d'écrire sur mon ordinateur parce que quand j'écris sur mon ordinateur, tout d'un coup, ça devient réel. Je vois mieux ce qui ne va pas. J'ai besoin de deux moments pour écrire. J'ai besoin d'être installé à ma table de travail, d'écrire sur un cahier. J'aime bien me lever assez tôt quand j'écris et ne absolument pas du tout regarder ni mes mails, ni mes SMS, rien du tout. Pas ouvrir mon téléphone, pas écouter les news, pas du tout être perverti par le monde extérieur et rester encore dans l'espèce de fraîcheur qu'on a quand on se réveille. Donc, se réveiller, prendre une douche, déjeuner très légèrement et se mettre au travail très tôt, 6h du matin. Et au moment où j'ai envie de tout balancer par la fenêtre, où je vais devenir fou, je pars marcher. Londres est une ville parfaite pour marcher parce que je peux marcher des kilomètres, me perdre, faire des photos aussi dans des endroits que je connais pas. Et j'écoute la même chanson en boucle avec le casque sur les oreilles. Je marche et j'écoute en boucle. Et il y a des choses qui arrivent et que j'enregistre sur mon téléphone. Et après, le soir, je fais la synthèse de tout ça.
Vous écrivez en pensant à quelqu'un ?
J'ai écrit en pensant à quelqu'un, oui. Il y a des albums qui sont entièrement monogames, d'autres qui sont plus polygames et d'autres qui sont complètement célibataires.
Est-ce que vous vous aimez aujourd'hui ?
Je crois que oui. Enfin, je vis bien avec moi-même. M'aimer, c'est peut-être beaucoup dire, mais en tout cas, je vis en harmonie avec moi, quoi. Je suis pas en conflit avec moi du tout. Je vis dans un climat plutôt confortable avec moi, ouais.
Et vous êtes bien quand vous êtes seul, par exemple ? Vous aimez être seul ?
Ah oui. J'ai l'habitude d'être seul depuis petit et je me suis habitué à la solitude. C'est un luxe, je trouve, la solitude. Les autres me fatiguent beaucoup. Et je trouve dans la solitude beaucoup de force, et beaucoup de temps pour travailler aussi, beaucoup de temps pour être inspiré. C'est un métier de solitaire qui demande beaucoup de temps pour pouvoir réfléchir aux choses.
Les médias francophones publics vous ont proposé Dao, fan de pop, une émission de Jean-Luc Lehmann et Mathieu Ramsauer. Attaché de production Cécile Claire, narration Christelle André.
La fenêtre est sur la cour, clic-clac sur tous les contours de ta silhouette athlétique. Je l'avoue, j'en suis fanatique. Ultime et photogénique, un éloge chic de la France. La vraie beauté n'en a jamais conscience. La fenêtre est sur la cour, clic-clac sur tous les contours de ta silhouette en slimane. Je dois admettre que je suis fan de tout ce que tu émanes. Un éloge chic de la France, à la beauté qui n'en a pas conscience. Éloge à ta beauté vis-à-vis, du moins on s'en se laissant répit. Je photographie à ton insu toute ta vie. La fenêtre est sur la mélange de hip et classique, une vraie bombe artistique, un éloge chic de la France, à la beauté qui n'en a pas conscience. Éloge à ta beauté vis-à-vis, du moins on s'en se laissant répit. Je photographie à ton insu toute ta vie. Je vis ta vie. Je vis ta vie. En vis-à-vis, éloge à ta beauté vis-à-vis. Du moins on s'en se laissant répit. Je photographie à ton insu toute ta vie. Éloge à ta beauté vis-à-vis, dis-moi en sort se laissant répit. Je photographie à ton insu toute ta vie. Je vis ta vie. Je vis ta vie. Je vis ta vie. Je vis ta vie.
C'était le dernier épisode de Dao, fan de pop. Les mots de la fin reviennent à son entourage. Brigitte Fontaine ouvre le bal.
Quel regard vous portez sur son parcours professionnel ?
Un regard de miap.
Alors Étienne, là c'est la partie la plus presque émouvante, parce qu'il faut... Non, il faut pas. Non, je recommence.
Ah ben, Étienne, j'ai acheté ton nouvel album et il est super. Et puis c'est génial. Et puis je te vois bientôt. Je t'aime. Bisous. Bye.
Bon, écoute, Étienne, tu étais un jeune garçon malicieux, gracieux et un de mes premiers élèves attachants dont l'amitié fidèle m'est très chère. et je t'embrasse.
Écoute, mon cher Étienne, ne change rien. Voilà, j'ai un plaisir immense à travailler avec toi. Je sais la chance que j'ai et je te remercie.
Ah, mon cher Étienne, là, c'est une occasion de rêve. Je peux m'adresser à toi sans que tu sois là.
J'en ai pas assez. Je suis pas repu de ta carrière et de tes chansons.
Et quelle est votre question ?
Ah oui, bah j'ai du mal, il n'est pas là, donc il y a un micro, donc c'est toi Étienne. Donc tu as été la chance de ma vie, la rencontre de ma vie, oui.
Aujourd'hui c'est plus facile pour moi de te dire, parce que tu n'es pas là, que pour moi tu es vraiment un artiste extrêmement rare, tellement doué. C'est génial de pouvoir le dire et de le... je vais le hurler, je vais peut-être le chanter.
I love you et je t'embrasse fort.
Alors bonjour Étienne, on m'a demandé de te laisser un message. J'ai pas mal de choses à te dire, mais alors je vais peut-être pas les dire à la radio, alors... Je dirais que pour moi, toutes ces choses qu'on a partagées, même si on n'a jamais eu d'aventure ensemble, ça s'appelle l'amour. Donc voilà, je voulais te dire que je t'aime très fort.
Étienne, tu travailles trop. On a du mal à se voir et c'est pas drôle.
Ton dernier numéro de téléphone, c'est toujours le même.
Allô Étienne, écoute, j'aimerais bien qu'on se voit, qu'on fasse un dîner ensemble parce qu'on se croise... Ces temps-ci, on se croise et on n'a pas le temps de parler vraiment. Donc, on s'appelle et on essaye de se faire un dîner, si ça te va.
Tu es un artiste surdoué, j'adore chanter tes chansons.
Mon cher Étienne, d'abord, merci de m'avoir ouvert ta porte il y a une vingtaine d'années. Et Dieu sait si je tapais à la porte et j'avais envie de te connaître et de travailler avec toi. Alors j'avais surtout envie de travailler avec toi à cette époque-là et aujourd'hui, je suis heureux de te connaître. Donc merci pour ton amitié, pour toutes ces années passées ensemble et j'espère que la route est longue et belle encore devant nous.
Tu as fait une œuvre. Et oui, je l'ai dit, une œuvre d'art.
Cher Étienne, tu es quelqu'un d'extrêmement... généreux et qui irradie quelque chose de très positif. Et je crois qu'au moment où on s'est rencontrés, j'avais besoin de ça. J'avais besoin de ressentir cette énergie-là et qu'aujourd'hui, encore quelques années après notre rencontre, je m'aperçois que ça m'accompagne encore.
Mon petit Étienne, alors c'est grâce à toi que j'ai découvert la marge. Et c'est par la marge que je suis arrivée à faire des choses incroyables en tant que reporter, en tant que journaliste et en tant que baroudeuse.
Alors Étienne, j'ai une question super intéressante pour toi. Tu préfères qui dans le groupe ?
Étienne, je suis tellement touchée que tu m'aies un jour choisi pour être une amie et j'espère vraiment qu'on va poursuivre indéfiniment ensemble parce que j'ai l'impression qu'on arrive à grandir ensemble et puis à se soutenir et à aller encore plus loin chaque jour ensemble, donc merci. Merci d'être là.
Les compagnons du soir dans ta la belle étoile passent sous les ponts de la nuit. À Paris village, le miroir de la Seine, les lueurs des lampions, fuit le poison sans visage d'un ciel sans nuages, redonne la 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 la. Oh la douceur de ce futur incertain. La 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 la, trahir sa route, fracasser son destin. Les compagnons du jour, tête dans les nuages, provoquent bien des carnages, des carambolages. Les fusils silencieux aux beaux à l'unisson redoutent tous les ravages d'un ciel sans nuages, fredonne la 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 la. Aveuglé par un grand soleil radieux, la 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 la, crevé d'une aude et de ciel bleu, mais de loin, préféré encore un bonheur dangereux, c'est en allant trop loin que l'on avance un peu, oui, sans fin rechercher un bonheur dangereux. C'est en plongeant trop bas que l'on s'élève un peu. Les compagnons du soir ont une bonne étoile et sous les ponts de minuit, en rien ne partage l'ambition du vainqueur, la sueur du champion et le poison sans visage d'un ciel sans nuages. Redonne la 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 la, aveuglé par un grand soleil radieux. La 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 la, crevé d'une eau. chercher un bonheur dangereux, c'est en plongeant trop bas que l'on s'élève un peu. Là, sous ton parapluie, les mirages s'amoncellent et le gris cache et c'est le cri. Où l'on joue pas le parodie de paradis en sursis, mais de loin. Enfin rechercher un bonheur dangereux, c'est en plongeant trop bas que l'on s'élève un peu. C'est en allant trop loin que l'on avance un peu. C'est en plongeant trop bas que l'on s'élève un peu.